Chapitre 46. Le 22 août 2016, 20h.
Dissimulé par la haie un peu à l'écart de la plage de l'Ochelucha, on aurait pu croire que le vigile posté devant la caravane avait été rejoint par trois copains, aussi carrés et musclés que lui, mais au look décalé. Le garde du corps affecté à la surveillance de la chanteuse italienne était vêtu d'un impeccable costume anthracite, alors que les trois hommes qui l'entouraient étaient habillés de treillis de chasse pour les deux premiers et d'un jogging sombre pour le troisième. Si quelqu'un s'était approché, mais la plage était presque déserte et la caravane isolée de la plage, il aurait vite compris sa méprise. Quatre visages sombres, certes, un black et trois types cagoulés. Maria Tiara les observa un instant à travers le velux de son vestiaire, puis se tourna vers son invité, debout devant un fauteuil de cuir rose framboise. « Vous n'aviez pas besoin de faire descendre vos gorilles du maquis, » fit l'italienne. « Je vous aurais ouvert la porte sans eux. » Clotilde s'avança et évalua elle aussi à travers la fenêtre les quatre hommes qui partageaient un thermos de café et semblaient avoir déjà presque sympathisé. Leurs fusils étaient pudiquement adossés à deux conteneurs à poubelle. Papé avait été efficace. Lors de la lente descente du capot d'Iavetta, il avait utilisé le téléphone portable de Clotilde pour appeler quelques amis capables de neutraliser avec discrétion le bodyguard de Maria Tiara. La suite l'inquiétait davantage. Cassano avait rejoint la bergerie d'Arcano, épuisé après 2 heures de marche. Il s'était effondré sur la chaise posée au milieu de la cour, à l'ombre du chêne vert. Mamie Elisabetta avait profité de sa respiration rauque, lui interdisant de protester pour faire venir le docteur Pinero, qu'il refusait habituellement de rencontrer pour autre chose qu'un vaccin antigrippal. Pinero avait immédiatement appelé une ambulance et ordonné au patriarche d'Arcano une observation prolongée, doublée d'une cure de repos à l'antenne médicale de la Balagne. Elle plaignait d'avance la malheureuse infirmière qui, la première, aurait la mission d'annoncer à Cassano, reposé, qu'il devait néanmoins rester au lit quelques jours supplémentaires. À presque 90 ans, le vieux Corse continuait de marcher chaque jour plusieurs kilomètres ou de nager quelques centaines de mètres. Clotilde détourna les yeux de la fenêtre. « Je suis venue vous voir, Maria, l'autre jour après le concert, sans mon escorte, et vous ne m'avez pas ouvert la porte. Mais ce jour-là, vous n'étiez pas accompagnée de Brad Pitt ?» Le regard de l'italienne se planta dans celui de Natale, assis sur le second fauteuil, vert pomme celui-ci. Mal rasé, ses cheveux blonds en bataille, Natale avait enfilé à la hâte pour venir la rejoindre un jean troué et un polo blanc au col échancré. Beau, calme, il émanait de lui une force féline contrastant avec la vulgarité des ours bruns aux ordres de Cassano plantés devant la porte. Clotilde essaya d'éteindre les braises de jalousie qui lui brûlaient le ventre, mais Maria Tiara se chargea de les attiser. Elle s'installa sur le petit tabouret posé devant sa loge, un grand miroir, un simple lavabo et des dizaines de flacons de verre colorés, pailletés, ambrés, de pinceaux, de sticks de toutes les nuances de rouge, de pourpre et d'ocre.
Quel plaisir, poursuivit la chanteuse, de vieux amis qui passent prendre le thé à l'improviste. Mais vous m'excuserez, je dois me préparer. Mon concert commence dans 2 heures, mon public m'attend.
Elle cligna un œil amusé à son miroir, visiblement pas dupe de la motivation des ados prépubères qui venaient la voir plonger dans la piscine en maillot blanc transparent. Clotilde jeta un dernier regard à l'extérieur, vers les hommes cagoulés, puis repoussa le rideau de la caravane.
Je suis désolée, fit-elle. J'ai dû employer la force pour vous rencontrer, mais...
La chanteuse avait fait glisser le peignoir léopard de ses épaules. Il pendait sur la chaise comme un trophée de chasse abandonné alors que Maria Tiara, uniquement vêtue d'une culotte et d'un soutien-gorge rouge, leur offrait une vue imprenable sur son dos, de la rose tatouée sur la courbe de sa nuque jusqu'à l'arrêt de ses fesses. Le miroir du boudoir, plus indécent encore, se chargeait de l'exposer côté face. Natale est restée du même faux marbre que celui des meubles autour d'eux. Une table, une commode, un guéridon, une statue de Vénus et Cupidon, kitsch à souhait. L'intérieur de l'appartement d'une prostituée de luxe, pour vieux friqués, devait sans doute ressembler à ça, pensa Clotilde, avec un peu de méchanceté. Une ambiance tamisée, du simili-cuir, du bois contreplaqué et des tentures pour masquer la misère.
Vous savez, plaisanta Maria Chiara, après 20 ans passés à jouer les starlettes sur Canale 5, j'ai vu défiler toutes sortes de carabiniers.
Pinceau, coton, fond de teint passaient entre ses doigts experts. 2 heures pour se dérider.
Puisque c'était si urgent, continua la chanteuse, allez-y, ne perdez pas de temps.
Clotilde se lança. Elle raconta tout, et pas une fois Maria Chiara ne l'interrompit. Elle combina les détails évoqués par Cervone et Spinello avec ses propres souvenirs. La journée du 23 août 1989, la virée à la Camargue programmée par Nicolas, la Fuego qu'il avait empruntée, qu'il avait essayé de conduire avec Maria Chiara, assise sur le siège passager. L'accident, apparemment bénin. La voiture n'avait rien, sauf la direction, la rotule, l'écrou, la biellette. Lorsque Clotilde eut achevé son récit, d'un geste élégant, la chanteuse italienne fit pivoter son tabouret à roulettes. Pendant son monologue, Clotilde n'avait pas regardé Maria Chiara se maquiller. Le résultat était stupéfiant. Elle s'était peint le visage d'une diva de 30 ans. Des lèvres charnues, rouge velours, de grands yeux noirs, des pommettes hautes et lumineuses, un front lisse et bombé. Une jouvence à en plonger dans la fontaine de Trevi sous les caméras de Fellini, pas dans une pataugeoire en plastique immortalisée par les objectifs des iPhones en mode vidéo. Elle fit rouler le tabouret sur la moquette jasmin. Elle prit la main de Clotilde avant de répondre.
Bien entendu, ma chérie. Je me souviens de votre frère. Nicolas était touchant, différent, beau. Plus que cela même. Il possédait une forme de gentillesse désarmante. À vouloir séduire sans vraiment y parvenir, à jouer si mal de la guitare, à se déshabiller en frimant alors qu'on le sentait pudique comme un petit enfant. Il était si émouvant, la veille de l'accident. Ici même, sur la plage de l'Ocheluccia, près du feu de camp.
Clotilde la coupa sèchement.
Et pourquoi, Nicolas, ce garçon si charmant, si touchant, n'a-t-il rien dit? Pourquoi n'a-t-il pas osé parler à mon père? Pourquoi a-t-il préféré monter dans cette voiture quelques heures plus tard plutôt que d'avouer votre accident?
Nicolas aurait été incapable de faire ça. La main de Clotilde sursauta. Celle de Maria Chiara la retint fermement.
Nicolas aurait été incapable de faire ça, répéta la starlette. Et vous le savez bien.
Des larmes commençaient à couler au coin des yeux de Clotilde. Sa main gauche chercha celle de Nathalie sur le fauteuil voisin. La droite restait au chaud entre les doigts de l'italienne, emprisonnée dans une serre d'aigle aux griffes peintes rouges carmin.
Cervone et Spinello a raison sur un point. Je voulais être certaine que Nicolas savait conduire avant d'accepter sa fugue en fuego. Votre frère a vraiment volé les clés de la voiture de votre père. Il m'a vraiment proposé cet essai, quelques minutes jusqu'à Galeria. Mais la suite est un peu différente de la version de votre directeur de camping. Nicolas conduisait avec prudence, sérénité et assurance.
Les griffes serraient les phalanges de Clotilde, doucement. Maria Chiara possédait les ongles rétractables d'une chatte.
Et pourtant, je peux vous assurer que j'ai poussé le test au maximum. Bisous dans le cou, caresses sous son short, ou le mien. Mais il nous a ramenés à bon port sur le parking au camping des Eprocht, sans la moindre sortie de route.
Clotilde se rappelait les mots prononcés par Cervone. Nicolas, penché sous le moteur de la voiture,
« Il n'y a rien, il n'y a rien !»
approchant ses mains noires des dentelles blanches de Maria qui se recule, l'insulte, s'enfuit. Qui mentait? Sa voix trembla.
« Cervone vous a vu discuter sur le parking. » « C'est exact. Je ne me souviens plus des mots précis, mais une fois descendu de la voiture, j'ai confirmé à Nicolas que le test était concluant, que j'acceptais de monter dans son carrosse avec lui une fois la nuit tombée, mais à une seule condition. »
Les doigts de Maria Tiara se crispèrent dans ceux de Clotilde. Et comme s'ils propageaient un courant électrique, ceux de Clotilde se crispèrent dans la main de Nathalie.
« À une seule condition, » continua la starlette, « qu'on s'y rende seul, tous les deux, sans tous les autres abrutis du camping. »
Les mots de Maria Tiara possédaient une vertu miraculeuse, la puissance d'une aspirine radicale à effet immédiat contre les pires migraines. Cervone et Spinello avaient tout inventé. Nicolas n'était coupable de rien, responsable de rien. Cette histoire d'accident n'était qu'une monstrueuse diffamation. In extremis, Clotilde était parvenue à retenir ses larmes et, à présent, une douce euphorie l'enivrait. Maria Tiara, au contraire, avait laissé les gouttes inonder ses yeux puis couler, ravageant en quelques secondes le patient travail de la bellissima pour appliquer de la poudre de terre ocre sur chaque rigole.
« J'ai attendu votre frère, Clotilde. Je l'ai attendu le lendemain. J'avais enfilé ma plus belle robe, une pluie d'étoiles autour des yeux, des roses dans mes cheveux. Je l'ai attendu toute la nuit. » Je voulais que ce soit lui mon premier, lui et aucun autre. Oui, je l'ai attendu sous les étoiles, jusqu'à ce qu'elles s'éteignent une à une. Lorsque la dernière s'est noyée, j'ai pensé à lui comme au pire des salauds. Je suis allée me coucher avec ce mépris définitif pour les hommes. Et le lendemain matin, au réveil, j'ai appris. L'accident. L'impensable.
Les ongles carmin se plantèrent dans sa main, mais Clotilde ne la retira pas.
« Je vous le jure, Clotilde, je vous le jure. Chaque fois que je fais l'amour, et Dieu sait si ça m'arrive souvent avec des hommes différents, pas une fois je n'oublie de penser à votre frère. Si j'étais écrivain, je crois que cela ressemblerait à une dédicace, quelque chose comme cela. Oui, Clotilde, pas une fois je n'oublie de lui dédier cette petite mort qu'il n'a jamais connue. Que je lui ai refusé, par défi, par connerie. Et peut-être que si, aujourd'hui, rarement je dis non, même au con, si rarement je reporte au lendemain celui que je peux foutre dans mon lit le soir même, c'est pour que Nicolas me pardonne. »
Maria Tiara continua encore à pleurer, des larmes et des mots. Mais Clotilde ne l'écoutait plus. Son cerveau se concentrait uniquement sur quelques vérités. Maria Tiara ne mentait pas. Cela crevait les yeux. Cervone et Spinello avaient donc tout inventé. Pourquoi? Par jalousie? Par méchanceté? Ou bien le jeu de Cervone était encore plus simple que ça? Il suffisait de connecter deux faits avérés. Cervone avait inventé un récit d'accident pour expliquer pourquoi la direction de la Fuego était endommagée. Mais le sergent Cesareo Garcia était formel. L'écrou avait été dévissé. La rotule avait cédé net, et d'ailleurs, le gendarme n'avait pas parlé de barre déformée. Il avait parlé d'un sabotage. Qui pouvait avoir intérêt à mentir sur la cause de l'accident de ses parents, sinon l'auteur de ce sabotage? Maria Tiara se leva, observa en souriant le désastre dans le miroir.
« À quelques minutes du concert, ça va être difficile de peindre une nouvelle œuvre d'art. »
Elle tira la langue à son miroir.
« Ils s'en foutent. De toutes les façons, ce n'est pas pour mes beaux yeux qu'ils viennent me voir. »
D'un geste d'artisan habitué au même mouvement journalier, ses doigts firent sauter son soutien-gorge alors que son autre main attrapait le maillot de bain blanc sur le porte-manteau.
« L'article 1 de mon contrat précise en français, en italien et en anglais que je dois plonger dans la piscine exactement à la fin du second couplet de Boys, 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 vêtue d'un bikini. L'alinéa A de l'article 1 précise un bikini de taille 80, bon essai. »
Elle tourna ostensiblement ses seins vers Nathalie, mais Clotilde ne ressentit cette fois aucune jalousie. Les révélations de l'italienne avaient fait naître pour elle une indéfectible sympathie.
« Allez, Brad. » « Vous privez pas, Maté. Séance privée. Ils ne sont pas à moi, alors profitez. Enfin, pas encore. À 3 500 € chaque nichon, j'ai dû emprunter sur 10 ans. Payer sa jeunesse à crédit, c'est une sacrée invention, non ?»
tout en se contorsionnant pour enfiler le minuscule haut de maillot de bain blanc, Maria Tiara s'adressa à Clotilde.
« M'en voulez pas, ma chérie. Vous devez avoir le même âge que moi à quelques années près. Vous êtes mignonne comme un cœur. Vous vous pointez avec un amoureux au regard ensorceleur, alors ne m'en veuillez pas. Vous, les hommes vous aiment pour votre sourire, votre énergie, votre élégance. Alors que moi, mes seins, depuis que j'ai 14 ans, c'est toujours ce qu'ils ont regardé. Ils sont, comment dire, mon identité, ma double identité. »
Elle éclata de rire. Cette fois, ce fut Clotilde qui lui prit la main.
« Vous chantez bien, Maria. Je vous ai écouté hier interpréter « Sempre Giovanni ». Vous avez toujours divinement chanté. C'est ça qui attirait les hommes. Votre chant, pas votre corps. »
Immédiatement, Clotilde s'en voulut d'avoir employé le passé. Mais Maria Tiara ne le remarqua pas, ou ne lui en tint pas rigueur.
« Merci, ma chérie, c'est gentil. Excusez-moi maintenant, j'ai piscine. »
Elle éclata encore de rire, fixa une dernière fois Natale, tout en réajustant son maillot de bain qui glissait déjà et dévoilait deux tétons sombres selon une symétrie étudiée, puis se retourna en sifflotant, sans confier son regard au miroir cette fois.
« Boys, boys, boys. »